on va commencer donc cette soirée du Bistrot des Ethnologues. Avant de commencer, donc, je dois formuler les remerciements rituels donc, à l'égard des institutions qui supportent cette organisation donc, des Bistrots des Ethnologues. Donc, en premier lieu, donc, la ville de Montpellier, le Conseil général de l'Hérault et la DRAC. Et puis Divergence FM qui assure la rediffusion donc, des bistrots sur son antenne. Et puis je voudrais remercier aussi la librairie Livrée donc, qui assure, qui avec Daniel là, est là et présente les ouvrages régulièrement donc, des chercheurs qui viennent présenter leurs travaux. Et puis je remercie aussi la laiterie qui nous accueille donc, depuis le début de cette saison donc, 2010-2011. Et, qui, et qui ce soir a installé le dispositif de présentation donc, pour les films, puisque donc, nous accueillons ce soir Mouloud Boukala, qui est un chercheur donc, qui travaille actuellement à l'Université de Laval au Québec et qui a gentiment donc, accepté de descendre jusqu'à Montpellier à l'occasion d'un court passage en France, et on le remercie pour ça. Donc je vais le présenter très rapidement, puis ensuite je lui laisserai la parole pour développer son intervention de ce soir. Donc Mouloud Boukala a fait des études cinématographiques donc, à l'Université de Lyon 2, et en même temps des études d'anthropologie. Et puis il a fait un doctorat d'anthropologie sous la direction de François Laplantine, qui portait sur une pêche artisanale au Guatemala, qui était une thèse qui était centrée sur une approche en anthropologie visuelle. Et donc, il travaille actuellement donc, au CELAT, à l'Université de Laval à Québec, au Centre interdisciplinaire d'études sur les lettres et les arts, et les traditions, centre donc, de recherche où il a été recruté pour travailler sur la question de l'autoreprésentation des jeunes haïtiens de Montréal. Donc, actuellement, donc, il va publier un ouvrage sur Pierre Perrault, qui est un cinéaste québécois. Et il s'intéresse particulièrement également à la question des images en relation avec le handicap. Mais ce soir, donc, il va nous présenter un travail qu'on a intitulé pour la séance, donc, qui s'appelle « Filmer l'humain », en référence à un ouvrage qu'il a publié, qui est intitulé donc, « Le dispositif cinématographique, un processus pour repenser l'anthropologie ». Et donc il va nous présenter un travail, son travail en l'illustrant ou en l'accompagnant, on va dire, d'extraits donc de films qu'il a choisi pour développer sa proposition. Voilà, je vous laisse la parole.
Bonsoir à toutes et à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier toute l'équipe du Bistrot des Ethnologues et de la laiterie pour cette invitation. Aujourd'hui, séance un peu particulière. J'ai un peu encore le décalage horaire du Québec, et si vous me posez des questions, peut-être qu'il y aura un léger temps de décalage pour répondre, pas une super grosse vivacité on va dire, mais on va essayer de faire le maximum. Aujourd'hui, je vais pas vous parler directement de l'ouvrage que j'ai écrit, qui porte sur le dispositif cinématographique. Je vais procéder de manière différente. Je vous ai concocté quelque chose à partir de trois extraits filmiques. Donc je vais faire une introduction et puis je vais procéder en trois temps. Je me suis rendu compte en vivant au Québec que pratiquement tous les Français faisaient des communications en trois temps. Donc le cinéma peut être envisagé de différentes manières. Certains l'envisagent comme une industrie, un lieu, la salle de cinéma, un art, un champ, un continent, ça c'est Godard. Une technique de communication, un prétexte à raconter une histoire, une technique de communication ou un instrument d'observation au service d'un savoir préalable. Et moi, une partie de mes recherches a été consacrée avec d'autres, à montrer avec d'autres que le cinéma est un mode de connaissance susceptible d'affiner la démarche anthropologique, de rendre compte avec une grande acuité du réel et d'élargir la réflexion. Donc moi, pour ce soir, ouais, c'est difficile. Donc, on fait avec. Donc, pour ce soir, j'ai effectué un parti pris méthodologique. C'est-à-dire que je vais vous présenter des extraits filmiques, des sons et des images, et je vais partir à partir de ces sons et de ces images. C'est-à-dire que je ne vais pas me servir d'images pour illustrer un propos au préalable, mais je vais prendre les images et les sons comme matière première. Et puis, l'autre parti pris a été le suivant, celui du faiseur d'images. C'est-à-dire que j'ai une caméra et je décide de faire des images, de produire des images. Je pars sur le terrain avec ma caméra. Comment je m'y prends ? Comment je tente d'approcher mon sujet de la manière la plus juste et la plus fine qui soit ? À partir de ces extraits, de ces trois extraits, j'aimerais soulever les questions suivantes. Comment filmer un être humain ? Comment filmer des êtres humains ? Qui filme qui ? Pourquoi ? Quels sont les obstacles que l'on rencontre quand on filme ? À quelle distance se placer ? La caméra doit-elle être intrusive, participative ou seulement observationnelle ? Et puis en quoi les images, et puis quand je parle d'images, je parle aussi bien de photographie, de bande dessinée ou de cinéma, sont-elles susceptibles d'enrichir la démarche anthropologique ? Et puis à la fin, si j'ai un peu plus de temps, j'aborderai la question de l'identification. Et puis si j'ai encore un peu plus de temps, j'aborderai des questions éthiques, à partir de quel moment la démarche, le travail du chercheur, du cinéaste, la présence et le travail du chercheur, du cinéaste, peut-il devenir une violence faite à l'autre ? Donc pour cette séance, j'ai choisi des films qui ont été réalisés par des cinéastes qui n'ont aucune formation anthropologique, d'une part, et puis également par des cinéastes confirmés, d'une part, et puis d'autre part par un jeune cinéaste. Et puis enfin, nous verrons également, lors d'un court-métrage, un anthropologue à la caméra. C'est-à-dire qu'on verra comment un anthropologue s'y prend pour produire des images. Donc, comme je l'ai précisé, mon exposé, ma communication est structurée en trois parties. La première partie, elle pourrait être intitulée « Comment filmer les femmes de Bissau ?» dont on va voir bientôt un extrait. Deuxième temps, « Comment filmer l'ennemi ?» l'ennemi entre guillemets. Et puis, enfin, une dernière partie qui pourrait être intitulée « Comment filmer une femme figée et muette ?» Donc, le premier extrait est une brève séquence d'un film de Chris Marker, « Sans soleil », qui date de 1982. Donc, je vous resitue à peu près le propos du film, et puis à quel moment se situe cet extrait. Donc, cet extrait se situe à une trentaine de minutes du début du film. Et de quoi parle « Sans soleil » 1982, Chris Marker ? C'est l'histoire d'un caméraman freelance, Sandor Krasna, qui envoie des lettres et des images à une femme inconnue. Et le caméraman s'interroge sur ce qu'il filme et enregistre. Et il filme et enregistre des images et des sons essentiellement dans trois pays, au Japon, Guinée-Bissau et au Cap-Vert. Et la séquence que j'ai choisie, qui a retenu mon attention, est une séquence qui se passe sur un marché. Sur une place de marché en Guinée-Bissau, et la voix qu'on entend est celle de la femme inconnue. Donc, je vous projette l'extrait et puis on revient dessus.
Il m'écrivait que sur les images de Guinée-Bissau, il faudrait mettre une musique du Cap-Vert. Ce serait notre contribution à l'unité rêvée par Amilcar Cabral. Pourquoi un si petit pays et si pauvre intéresserait-il le reste du monde ? Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils se sont libérés, ils ont chassé les Portugais, ils ont traumatisé l'armée portugaise au point de déclencher en elle le mouvement qui a renversé la dictature et fait croire un moment à une nouvelle révolution en Europe. Qui se souvient de tout ça? L'histoire jette ses bouteilles vides par les fenêtres. J'étais ce matin sur le quai de Pidjikouti, où tout a commencé en 1959, quand sont tombés les premiers morts de la lutte. Aussi difficile sans doute de reconnaître l'Afrique dans ce brouillard plombé que de reconnaître la lutte dans cette activité un peu morne de dockers tropicaux. On a prêté à tous les leaders du tiers-monde la même réplique au lendemain de l'indépendance. Maintenant, les vrais problèmes commencent. Cabral n'a pas eu le temps de la prononcer, on l'avait assassiné avant. Mais les problèmes ont commencé et continué et continuent. Des problèmes peu excitants pour le romantisme révolutionnaire. Travailler, produire, distribuer, surmonter l'épuisement des lendemains de guerre, les tentations du pouvoir et du privilège. Mais quoi, l'histoire n'est amère qu'à ceux qui l'attendent sucrée. Mon problème personnel était plus circonscrit. Comment filmer les dames de Bissau? Apparemment, la fonction magique de l'œil jouait là contre moi. C'est sur les marchés de Bissau et du Cap-Vert que j'ai retrouvé l'égalité du regard. Et cette suite de figures si proche du rituel de la séduction. Je la vois. Elle m'a vue. Elle sait que je la vois. Elle m'offre son regard, mais juste à l'angle où il est encore possible de faire comme s'il ne s'adressait pas à moi. Et pour finir, le vrai regard. Tout droit. Qui a duré 1/25 de seconde. Le temps d'une image. Toutes les femmes détiennent une petite racine d'indestructibilité. Et le travail des hommes a toujours été de faire en sorte qu'elles s'en aperçoivent le plus tard possible. Les hommes africains sont aussi doués que les autres pour cet exercice. Mais bien regarder les femmes africaines, je ne les jouerai pas forcément gagnant.
Donc voilà, moi si j'ai choisi cet extrait, c'est pour une séquence particulière qui touche le rapport au regard. Et comment filmer l'autre? Si on reprend l'intitulé de cette soirée, filmer l'humain impose indissociablement de penser d'aborder la question du regard. Et moi, par rapport à cette séquence, il y a deux points qui me semblent particuliers. Je crois qu'il y a du souffle.
Juste, c'est vrai qu'il y a un souffle dans les speakers, mais c'est vrai qu'on vous demanderait un petit peu plus d'attention pour déjà pour respecter Mouloud Boukala pour sa présentation. Il y a du bruit en fond de salle et ça perturbe un petit peu. Merci.
Bon, donc moi, par rapport à cet extrait, il y avait deux aspects significatifs. C'était d'une part la fonction magique de l'œil, c'est-à-dire qu'au tout début de la séquence, on a tout un temps où on tente de filmer les dames de Bissau et en voix off, on entend la fonction magique de l'œil jouer contre moi. Et là, à l'écran, on distingue toute une série de comportements, de fuites. On se soustrait, on évite, on détourne le regard. Et on cherche à conjurer d'une manière ou d'une autre l'œil de la caméra. Et lorsque moi j'avais vu cet extrait pour la première fois, je pensais beaucoup à tout ce qui relève du mauvais œil, du mal ojo, ou dans la culture maghrébine, vous retrouvez ça, ça s'appelle le khamsa fi enik. C'est le 5 dans tes yeux. C'est-à-dire que quand vous êtes face à une personne qui vous observe d'une certaine manière ou qui émet un compliment par rapport à votre manière d'être ou par rapport à votre enfant et que ce compliment n'est pas introduit au préalable, on ressent ça comme chargé d'envie, de jalousie, et on se dit que le regard peut être contagieux. Et on décide de contrecarrer par une formule, le 5 dans tes yeux, le khamsa fi enik, ce que font les femmes là, ce désir chargé d'envie. À ce point, Il y a un très beau film qui a été fait par Jean-Daniel Paulet sur la contagion du regard, qui s'appelle L'Ordre, qui date de 1974, et qui aborde la question de la lèpre. C'est un moyen métrage qui a été fait dans une léproserie à Spinalonga. Donc, le second aspect qui a retenu mon attention sur ces extraits, c'est l'égalité du regard. Comment filmer les dames de Bissau ? Apparemment, la fonction magique de l'œil jouait là contre moi. C'est sur le marché de Guinée-Bissau et du Cap-Vert que j'ai trouvé l'égalité du regard. L'égalité du regard, elle passe par quoi ? Elle passe par un élément assez intéressant ici, c'est la manière dont on filme l'autre. C'est-à-dire que souvent, si vous donnez une caméra ou un appareil photo à des personnes qui n'ont jamais filmé, je vais me lever, ils prennent la caméra et ils filment comme ça, ou ils photographient à leur niveau, sans jamais se poser la question de l'égalité du regard. Et là, dans cette séquence, ce qui est pertinent, c'est la manière dont est filmée cette dame. Cette dame est sur un marché, elle est assise. On décide de la filmer à son niveau, à hauteur de regard. C'est-à-dire qu'on baisse sa caméra et on se met au même niveau qu'elle et on retrouve cette égalité du regard. Cette variation, enfin, cet angle de prise de vue est vraiment important d'un point de vue cinématographique parce qu'on se rend compte que cette égalité du regard n'est pas essentiellement physique, mais elle est également symbolique. C'est-à-dire que quand on filme l'autre, on doit se poser cette question où je me mets pour le filmer. Et ces questions sont d'autant plus pertinentes quand on est face à des personnes, par exemple, en fauteuil roulant, ou alors face à des personnes de petite taille, comme des enfants. Comment je m'y prends pour les filmer ? Et donc là, ça suscite vraiment des problèmes méthodologiques, tout en sachant que quand vous filmez par-dessus une personne, dessus, ça s'appelle une plongée, et vous écrasez la personne, vous la surplombez, et l'inverse d'une plongée, c'est une contre-plongée, quand vous filmez un sujet par en dessous. Et l'inverse d'une contre-plongée, ce que provoque une contre-plongée, c'est que vous grandissez la personne. Là, si vous regardez les films de Schwarzenegger, Terminator, Schwarzenegger est souvent filmé en contre-plongée et ça le magnifie, ça le grandit. Donc ça, c'était le deuxième point que je voulais soulever par rapport à cet extrait. Et enfin, le troisième point, c'était qui aborde directement la question du regard, c'est cette séquence de regard est rapprochée de quoi ? Du rituel de la séduction. Je reprends la voix off, le commentaire. Je la vois, elle m'a vu. Elle sait que je la vois. Elle m'offre son regard jusqu'à l'angle où il est encore possible de faire qu'il ne s'adresse pas à moi. Et pour finir, le vrai regard, tout droit, qui va durer 1/25e de seconde, le temps d'une image. C'est-à-dire que, en regardant ce court extrait, on comprend beaucoup de choses sur le regard. Regarder, c'est pas regarder deux fois, comme le dit Godard, mais c'est regarde-moi en train de fabriquer en toi l'œil qui me verra, ou qui ne me verra pas. C'est-à-dire que le regard part toujours de l'autre, regarde-moi, en train de fabriquer en toi l'œil qui me verra. C'est exactement la séquence qu'on vient de voir ici, proche du rituel de la séduction. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce moment où le regard relève d'un échange, on parle d'échange de regard, le regard est relationnel. Le regard sert à inclure, il peut également exclure, mais surtout le regard est historique, il relève d'une élaboration, il y a une certaine manière de regarder propre à chaque culture, et surtout le regard est indissociable de l'histoire, et notamment de l'histoire de la formation de la subjectivité, de la connaissance de soi et des autres. C'est-à-dire que ici, par cette séquence, on se rend compte que le regard est chargé d'enjeux, Le regard permet peut-être un enjeu de pouvoir. Là, par rapport au pouvoir, je pense à un court-métrage d'animation des Lascars qui s'intitule « Baston de regard ». Il peut être vecteur de fascination, de séduction. Et puis, il y avait un autre exemple moi, qui m'a permis de comprendre ces aspects, ces différents points sur le regard, notamment « Regarde-moi », c'est « Regarde-moi en train de fabriquer en toi l'œil qui me verra ». C'est un court extrait dans Indiana Jones. Dans un des épisodes d'Indiana Jones, on filme Indiana Jones donne un cours dans un amphithéâtre et le parterre est composé de jeunes demoiselles. Il y a un travelling sur ces jeunes demoiselles. On s'arrête sur l'une et que fait-elle? Elle plisse les paupières. Et sur ses paupières, elle a écrit « I love you ». Et là, on se rend compte que le « I love you », c'est « Regarde-moi en train de fabriquer en toi l'œil qui me verra ». Encore un dernier point par rapport au regard, ce qui va nous permettre d'avancer un peu plus dans la suite de l'exposé et d'arriver au deuxième extrait, c'est que le regard est une instance constitutive du social. C'est-à-dire que le sentiment d'existence nous est donné, ou plutôt est validé, par le regard d'autrui. Et ce regard, il peut être asymétrique, inégal. Mais grâce au regard, on saisit des mécanismes de domination et aussi de défense du moi, ce qui était toutes ces figures de fuite. Soit on sortait du cadre, soit on se protégeait de la main. Là, on nous parle de l'égalité du regard, mais il y a un autre point qui a soulevé ici, c'est la liberté du regard. La liberté du regard, toutes les personnes ne peuvent pas porter un regard libre. Dans certaines sociétés, par exemple, les femmes ne peuvent pas regarder directement les hommes. Ou alors, elles peuvent ne regarder que certains hommes. Je pense notamment à leur père, à leurs enfants, à leurs frères ou à leur mari. Sinon, si elles portent un regard direct sur un homme qu'elles ne connaissent pas, ce regard sera compris comme... marqué sexuellement, un regard obscène de convoitise ou d'aguichement. Là, je vous renvoie à un film particulièrement intéressant, c'est le film Hors-jeu de Jafar Panahi, un cinéaste iranien. Si je suis revenu sur toutes ces caractéristiques du regard, c'est qu'elles sont indissociables à l'acte de filmer. C'est-à-dire qu'en filmant, on peut dominer l'autre, le surplomber, le nier comme sujet, ou au contraire, établir de la réciprocité. Là, maintenant, toujours sur cette question du regard et de filmer l'autre, j'aimerais présenter un film plus contemporain qui date de 2010, qui est sorti le 20 octobre 2010, qui s'appelle « Basidji » de Mehran Tamadon. Donc, là, juste un instant pour que je change de DVD. J'introduis juste la séquence que j'aimerais vous diffuser. Basidji signifie les mobilisés. Au début du film, on a un déroulant, je vous le livre, et puis après, je procède en deux temps pour les séquences. Au début du film, on a ce déroulant qui nous dit « Il y a 28 ans, en 1980, moins de deux ans après la révolution iranienne, Saddam Hussein envahit l'Iran. » Très vite, une milice religieuse et populaire, nommée les Basidji, les mobilisés, s'organise et rejoint l'armée officielle pour défendre le pays. Une grande partie des Basidji est mort à la guerre. Ils sont eux aussi considérés comme des martyrs. Cette guerre, qu'on appelle officiellement la défense sacrée, a duré 8 ans. Aujourd'hui, 20 ans après la fin de la guerre, le Basidji existe toujours. Il est actif dans toutes les institutions de la société, administration, université, mosquée, usine. Donc les Basidji, ce sont donc les mobilisés et qui sont omniprésents en Iran. Ils constituent une sorte de police des mœurs. C'est-à-dire qu'ils vérifient si les couples qui sont ensemble sont réellement mariés, ils vérifient si les femmes portent le voile et ainsi de suite. Ils font respecter les principes de la République islamique. Et ce film, Basidji, de Mehran Tamadon, c'est un jeune cinéaste. On va le voir, l'entrevoir lors de la séquence que je vais vous projeter. Il est iranien, avec une formation d'architecte. Et ce film, c'est son premier film. Ça lui a pris 3 ans pour le faire. Et son film est intéressant à maints égards. Un point à mentionner, c'est que les parents de Mehran Tamadon ont trouvé refuge en France. Ils étaient communistes, ils ont fui le pays et Mehran Tamadon a vécu plus de 10 années en France et il est revenu en Iran uniquement pour faire ce film. Donc moi, je vais vous présenter le dispositif mis en place par Mehran Tamadon pour interviewer, rencontrer et dialoguer avec les Basidji. Donc je vais vous le présenter rapidement et puis après, je vais vous présenter des questions posées à ces Basidji.
روی این حساب میگم یا اینکه شما سوال میخواید بپرسید حالت اینکه مشتتون برای ما وا میشه ما میفهمیم که دیگه دست شما دیگه آخر نهایتش که دست شما هیچی نیست دیگه یا اینکه یه چیزی هست ما نمیدونیم نگه داشتید کم کم میخواید مثلا باشید یه آروم آروم با یه اوی با نکنید مشتتون برای ما وا نشه که مثلا اون اعتقاداتی که داریم خیلی فاصله داره شاید مثلا با ما زیاد ناراحت نشیم خودمون رو زیاد فاصله نمیدیم بین خودمون که آقا مثلا شما خیلی با ما دوری پس مثلا لزومی نداره با شما صحبت بکنیم از یه جنبه ای که حالا شما احترام میذاری به ما شاید مثلا سوالی تو ذهن شما باشه فکر میکنی که اگه ما این سوال رو بپرسی مثلا من از دست شما ناراحت میشم روی این حساب گفتم که هر چه دلت انگل میخواد بگو مثلا ما میگم نمایتش بیاد انقدر جرأت داره میگه حاضر این سوال رو اصلا سلام نیست جرأت جواب دادن این سوال رو ندارم
Donc, présentation du dispositif. Première question posée par une femme qui est la suivante. Bonjour, je suis une femme iranienne. Imaginons que je ne veuille pas porter le voile. L'unique solution pour moi serait de quitter le pays. Donc ça, c'est la première question. Mais nous, on va un peu plus loin.
سلام من یه زن ایرانی هستم فرض کنیم نخوام به نظر شما تنها راه حل اینه که از ایران برم
وقتی اسلام رو قبول کرد و پذیرفت خودش رو توی محدودیتی قرار داده دیگه دوباره ببینیم اولی غلطه که اگر قبول نکرده باشه بیرون قبول نکرده باشه با خودش بیرون خواهد از میگم آجا
سال کرد پس نشده بیرون ساده میکنم که پذیرفتی اسلام و پس در بلی
بیرون نه سوال شما رو من حرف شما رو دارم میگم یعنی شما میگین که یه اجباری وجود داره اون اجباری نیست بعد اگه دین اختیار کرد بعد خودش داره اجبار رو براش میگم
هر دینی یه باید هم قابلت هایی داره کجا با نمی دین
اختیارشه
اما کسی از یادم نمیپرسه که تو این انتخاب کردی
سال اگر فردی تو جامعه اسلام اومده تو حکومت اسلام قرار گرفته مثل الان قوانینی که برای یهودی ها یا برای مسیحی ها هستش اینجوری که هستش بزن ما با قوانین مقدرات خودشون در واقع محاکمه میشن حتی ما هم با قوانین مقرر میدیم اگر کسی دین رو پذیرو شیعه رو پذیرو پس اوتوماتیکای محدودیت رو برای خودش شما میگی که میگی ازش میپرسی تو مثلا اینجوری هستی نمیپرسی کسی به این فرم
یعنی همین کسی که مسلمانه این حدود رو باید رعایت کنه اون کسی هم که مسلمان نیست تو حکومت اسلامیه حکومت اسلامی که امنیتش رو تامین کرده باید تابع مقررات این حکومت بوده یکی از مقررات حکومت اسلامی که از خود اسلام گرفته شده هم موضوع رعایت حجاب کسی نخواد حجاب رو رعایت کنه از کشور بره اونا میتونه زندگی میکنه اونتا این وارد میشه
یه چیزی که من در مورد این آدم اذیت میکنه اینه که چرا تو چشم آدم نگاه نمیکنه تو ارتباط اولین ارتباط تو چشم آدم خیلی برای من سخت کنید که آدمی نگاه بکنم تو چشم من نگاه نمیکنه و نگاه تو منو پذیرا میشه اگه بخوام تو من حرف بزنی چشم شما مثل پایین حرف میزنه حجاب برای من حجاب در میگیره اگر تو نگاهت نگاه ناخواسته باشه در تنها غلط چرا با همه دارم اونا هم در سخت کنم بوده شاید اگه نگاه بکنن در سبا سر رو بکنن ماها هم خیلی راحت تر رو میگه بکنن
من کسی رو که درست کنم نمیشنسن خب میترسم میترسم و خطرناک ترین تیر های شیطانی از همین ناحیه چشم و چشمه که معمولا حالا در بین زنها و دخترها ممکنه با یک تکنیک بودن یک قسمت از یک موشه یک چشمش یه مرمی رو ولو در اوج تقوا بلرزونه خطرناکه یعنی بحثیست که به همین راحتی نیست که با یک مثلا تکون داده میشه یه از ابرو یا مثلا این طرف با چشماش میخنده با چشماش گریه میکنه با چشماش اشاره میکنه بین مثلا شما اطلاع تشکری ایران بخواهم تو برو من قرار میگیریم من سلامت میکنم خوش کنم با ایشونم سلامت میکنم با هم میگم ولی اگه خودش تنها بیاد پیش من خب یه مقداری محدودتر میشه هم اون تو سوال و جواب سوال و خوش بش کردن با ما و هم ما نسبت به ببینید من دیگه اون موقع یه مقداری محدودیت دارم با زمانی که با شماست میگم خب هیچ احتمال داری به اون فساد چیزا نیست چون هیچ انگیزه ای براش نیست ما وقتی مطمئن بشیم از طرف صورت نگاه کردن و تو چشم نگاه کردن اشکال شرعی نداره مگر اینکه ری بره مگر اینکه مفسده ای بعد مترتب بشه یعنی بعدش بیاد حالا یه علامتی بده بعد دیگه مثلا بعد اینا مهم مسائلی داره که آدم باید پرکیس کنه
من نظر خودم بگم با مصطفى پندو اینه که
چهارونی هم گفتم
باید این ورمیشه
نمیدیم این ورمیشه که همون داره
باشه حالا
چیز اینه که من خب خیلی پیش اومده که چون من همه خانمه رو نگاه میکنم خانمی نیستش که نگاه میکنم و پیشم میاد که وسوسه بشم خیلی پیش
میاد
نه باید اما خب یه راه حلی که دارم اینه که خودم کنترل میکنم
کافه چی طوری؟ چطوری
کنترول میکنم؟ چجوری خب کنترول میکنم؟ یه سری اخلاقیات برای خودم قایدم
چجوری؟
یعنی
کنترول بروزش به چیه؟ سوال میکنم
اولی
شما تا دیدی چی کار میکنی؟ اکسال اولی چی؟ کنترول من بخواهم کنترول کنم از تو کنم چجوری کنترول میکنم؟ به منم یاد که کنترول میکنی یعنی چی کار میکنی؟ چشت رو میبندی، سرت رو میدازی، پایی باز برمیگردی خب قشنگتر نگاهش میکنی، بهش میخندی بیا عکس العملی بروز قلب تو باید یعنی کنترل ها ولی کنترل ها چی جوریه چی؟
عکس العملی بیرونی نداری
من چند تا احتمال میدم یک وقتی خودت بخواید کنترل کنی یعنی اینکه سرت رو میدازی داری نگاهش میکنی، لذت بردی یه لحظه بعد خودت میخواد کنترل کنی دیگه نگاش نمیکنی چون نمیخواد لذت ببری دیگه درسته بلاس حرف میگه شرم هم نمیکنی یه وقت نه میخواد کنترل کنی نمیتونی خوب نگاش میکنی و بیشتر نگاش میکنی کنترل نیست اینو بیش نمیکنی
آخه آدم که هر از حد یه خوشش میاد که نمیره سراغش.
حتی وجود تو به هم میریزه یا نه؟ وجود تو یه اثری میذاره یا نه؟ اگه وجود تو به هم میریزه خب باید ازش اعراض کنید دیگه. منطقیش اینه. اگر وجود تو به هم میریزه یعنی این تو به هم میریزه، این تو به هم میریزه، باید ازش اعراض کنید.
حد هم نمیریزه.
یه اون حدش یکی تعیین
میره. اعتقاد آبیده چیزه. چون یه پارچه سفید، یه لکه کوچولوی مشکی. بنده سر سوزن لکه مشکی بیفته توش تابلوه. خب من میخوام قلب سفیدی که حالا اون بسیجی یا اون فردی که داره نگاه نمیکنه مثلا خب اون لکه مشکیه دیگه نیفته تو اون پارچه سفیدش، اون قلب سفیدش، قلب شفاف. چون اعتقاد داره این قلب اگه امروز الان یه نقطه کوچولو فردا میشه یه خورده بزرگتر 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 بزرگتر، اون وقت کل پارچه رو میگیره کارش دیگه نمیکنه.
نگاه
شده
بخش دوم صحبتش که اینجا یه چیز درونیه، نگاه پاک نباشه نگاه نکنی هم باز موقع که رو تو بارم باشه نکنی چی میگه که اون دیگه اصلا مبنایی نداره.
مثل بحث نماز
بوده
یه دونه
که
نماز
نخونه
دل پاک باشه
بعضی از اینا میگه آقا دل دادم دلش پاک باشه حجاب لازم نیست. اون حجاب حکم دینه، دلت هم باید پاک باشه. بعد میگه یه دلت پاک باشه حجاب لازم نیست.
عقلی که حالا عقلی دارم دینی نداره.
عقلیش هم نداره. ملاک چیه؟ شما الان ملاک پاک بودن دلت چیه؟ از روی کجا؟ با پول خرچش می‌کنم این کسی دلش پاکه. یکی بده من دلم پاکه، می‌فهمی دلش پاکه. باید یه ملاک باشه دیگه.
من دلت پاکه.
مجموعه که همون دیده همه چه نفع از خودت قضاوت می‌کنه. مجموعه رفتار و معنیش و اعتقادات افراد نشون می‌ده این چیزی باشه. وجودش چیه؟ درونش چیه؟
اگه اینجا بودن و جوابش رو باید تجربه کنم خودش هم قانع میشه. من این برای در شما خودش قانع میشه.
منطقی بود باید. اگه منطقی بود باید.
شما خیلی شما قانع شدی؟
کنم قانع
شدی. از جنس فرق میکنه از اون جنس نیم. ولی برای تو قانع شدی.
خود تو مملکت رو میکنم. باید زیاد بحث کردیم قانع شدن یا ما قانع شدیم شاید هم میشه
نه دو دوتا مگه نمیشه چهار تا
دو نیست که مثلا شما یا ایشون بگه پنج تا باشون بگه شش تا
آقا بگه سه تا من میگم نه هشت تا
بحث در دو دوتا چهار تا هست
من میگم.
Donc voilà, moi si j'ai choisi cet extrait, c'est que je trouve ce film à la fois courageux, intéressant et maladroit. C'est-à-dire qu'il est courageux, c'est-à-dire que Tamadon filme où certains ethnologues ne peuvent pas aller. C'est-à-dire que si vous voulez faire une étude anthropologique à partir du Canada, en partant du Canada, je prends mon exemple, sur les Basidji, il faut passer par un comité d'éthique. Et il y a peu de chances que le comité d'éthique accepte une étude sur les Basidji et accepte de la financer et de donner son accord pour pouvoir mener des entretiens ou éventuellement filmer les Basidji. C'est un cinéma intéressant, pourquoi ? Parce que d'un point de vue, au niveau de ce qu'il met en place, c'est intéressant parce qu'il arrive à libérer une parole. Il pose des questions, et ce ne sont pas ses propres questions, ce sont les questions des Iraniens et des Iraniennes. Et ce procédé-là, cette manière de faire, a ses avantages et a ses limites. C'est-à-dire que le tribunal entre guillemets qu'il a créé, le 1 contre 4, fonctionne sur certains points et sur d'autres, présente une grosse faiblesse. Le principal point, c'est quoi ? C'est de poser des questions franches et directes. Et le point faible, c'est essentiellement que le réalisateur n'a pas le vécu des personnes qui posent des questions. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à surenchérir, à analyser leurs questions, à relancer et à demander des précisions par rapport aux réponses apportées. Ça, c'est un premier point que je voulais soulever. C'est-à-dire que ces images sont des images critiques, au sens fort, c'est-à-dire que des lieux de crise, elles sont critiques. Mais ce qui se passe avec cet extrait, c'est que l'intervieweur se retrouve prise à partie. À un moment, on a une série À un moment, on a une série qui est la suivante. Tu t'y prends comment? Cela s'extériorise de quelle manière? Qu'est-ce que tu fais dès que tu la vois? Quelle est ta réaction? Moi aussi, je vais me contrôler à ta façon. Apprends-moi. Tu fais ça comment? Tu fais comment pour te contrôler? Tu fermes les yeux? Tu regardes ailleurs? Ou bien tu la regardes encore plus? Tu lui souris? Comment ce que tu ressens s'extériorise? Comment est-ce que le contrôle de tes émotions s'extériorise? On est face à 11 questions d'un coup. Et il ne sait pas quoi répondre. Et après, on lui suggère une hypothèse. Ça, c'est une des premières faiblesses du processus mis en place par Tamadon. L'autre point faible du réalisateur, c'est qu'il ne revient pas sur leurs questions, sur leurs réponses à eux. Il ne demande jamais, à aucun moment, des précisions sur les réponses apportées, notamment sur c'est toujours par le biais de l'œil que le diable nous tire dessus. Les femmes et les jeunes filles, rien qu'avec le mouvement d'une partie de leurs yeux, elles peuvent faire trembler l'homme, le plus religieux qui soit. C'est dangereux, c'est pas si simple que ça, rien qu'avec une partie de leurs sourcils. Pardon, il interroge jamais les réponses abordées. Et un autre détail, mais là qui est vraiment intéressant, c'est si on regarde ce film d'un point de vue communicationnel, si on se place sur l'analyse d'images, et notamment l'analyse des postures et des comportements, là, le travail de Tamadon est stimulant, parce qu'on se rend compte qu'on est face à une sorte de synchronie interactionnelle. Synchronie interactionnelle, c'est un concept qui a été forgé par William Condon, et qui est souvent utilisé et appliqué dans certaines écoles. Je vous montre deux extraits de synchronie interactionnelle. Ça, c'est un exemple de synchronie interactionnelle où on est sur du face-à-face. Il y a un autre extrait où on est sur du côte-à-côte. Ce sont tous ces ensembles de postures où, à un moment, vous êtes à côté d'une personne et vous adoptez exactement ces mêmes gestes. Et là, dans l'extrait, on les voit tous. À un moment, ils se tiennent tous comme ça, ils font tous face à l'intervieweur, ils reproduisent exactement les mêmes gestes. Et on a aussi, à un moment, on se racle la gorge, il y a deux protagonistes qui se raclent la gorge, et ces synchronies interactionnelles, dans certaines écoles, sont apprises. On vous apprend à imiter l'autre, à reprendre son intonation de voix et sa respiration, pour créer avec lui un courant de sympathie. Donc, ces manières de faire sont soit inconscientes, soit faites de manière consciente. D'ailleurs, il y a un film que j'ai vu, je vous le livre au passage, c'était dans un avion, c'était Le Coach. Très bon film. Le Coach, où vous avez Richard Berry qui doit coacher une personne et qui lui apprend les deux phases. Observation, on observe une personne et on l'imite. Bon, bref, passons. Si j'ai pris ces deux extraits dans un premier temps Chris Marker, c'est qu'on est face, quand on filme l'autre, à une attitude observationnelle. Et là, on se retrouve à... On n'est plus dans quelque chose d'observationnel, on est dans quelque chose où on interagit. Et là, il y a une grosse différence, et on se rend compte que filmer l'humain ne présente que peu d'intérêt si vous ne maîtrisez pas les leçons du magnétophone. C'est-à-dire que si vous ne savez pas mener des entretiens ethnographiques, ça ne sert à rien de partir avec sa caméra, vous rencontrerez plus de problèmes, et puis mener des entretiens collectifs est encore plus difficile dans un premier temps, quand on est à ses tout débuts, que mener une interview individuelle. Et puis le dernier point, pourquoi j'avais intitulé cette partie-là Filmer l'ennemi, là je faisais référence à Jean-Louis Comolli, qui a fait tout un travail sur le Front National. Comment filmer le Front National? Comment filmer l'ennemi? Donc il a fait 5 films autour du Front National. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle Voir et pouvoir. Et là, ce qui était intéressant dans sa démarche, c'était, il y avait deux points essentiels. C'était pour vaincre l'ennemi, il faut d'abord passer du temps avec lui pour apprendre à le connaître, mieux le connaître pour mieux le vaincre. Ça, c'était son point fort. Et puis, il y avait une autre idée derrière sa pratique. C'était une vision, une tradition talismanique de l'image. c'est-à-dire une vision, une tradition magique de l'image. On va filmer le Front National, on va filmer le mal, on va projeter le mal à ces personnes-là. Ils vont voir le mal, ils vont prendre peur, et le mal qui est en eux va sortir. Donc ça, ça a été la proposition de Jean-Louis Comolli sur de nombreuses années, qui a été théorisée par Monzin dans un ouvrage, Le commerce des regards, et dans d'autres ouvrages. Ils ont tenté de faire ça, bon, ça ne fonctionne pas, mais ça a été une belle tentative, et les documentaires sont vraiment intéressants. Enfin, là, j'arrive au troisième temps de mon exposé. J'aimerais vous diffuser un petit film, un court-métrage, un plan-séquence, un faux plan-séquence. Le film s'intitule « Portrait de Raymond Depardon ». Il date de 1983. Et c'est 10 minutes. Et juste un point par rapport à ce film, il est difficilement accessible. Donc moi, c'était une VHS que j'avais passée sur du... que j'avais numérisé.
Félicité pour les motocyclistes.
Ouais.
Quand je l'attache parce que... Tu circules beaucoup à vélo ?
Ouais.
C'est la meilleure moyen. Et je l'attache parce qu'il y a plein de voleurs. C'est pour ça que j'ai fait un film sur la police. Non. Voilà. Voilà, moi je vais prendre mon appareil. Alors, j'ai pas d'armée là, égale.
Bon,
va.
Bon, tu as demandé qu'on ait un endroit un peu pas trop bagage. Ouais.
Bon, ben...
Le Louvre.
Le Louvre.
Les Tuileries.
Carrément.
Les dames, carrément.
Carrément le Louvre. On va aller là, c'est pas
bon. On marche un peu sur le gazon.
J'aime pas le bruit. J'aime pas le bruit de la ville. Voilà. Moi, j'en profite pour faire des photos. La question est de savoir si on va réussir notre plan séquence.
Ah ben, pourquoi pas.
On
est parti tout.
Ouais.
Pourquoi un film sur la police, Raymond? C'est beau, je découvre mes petits collègues derrière. J'adore sur ces moments où on marche dans la boue. Alors,
un peu pour... je suis un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que la police, il y a un petit blocage, quoi.
Oui.
Et puis, au départ, c'était ça. Mais après... J'ai aperçu que ce qui m'intéressait, c'était les petits faits que la police traitait, qu'on nous on voit pas. Les petites choses, même que la presse ne traite pas, quoi. Les petits événements. Ce qu'on appelle la main courante, jusqu'à la mort d'une personne. Quoi. Ce qui se passe à Paris maintenant, là. Il y a peut-être une police secours qui part. Et ce sont des choses qui ne sont pas forcément des choses dramatiques, ce sont des choses différentes. Il y a énormément de choses. C'était un voyage incroyable de passer comme ça.
Mais quand tu as fait ça, que tu as vu ces gens, tu vois le problème, tu regardes mon visage, est-ce que tu veux regarder l'objectif?
Non, je regarde l'objectif.
D'accord, bon. Quand tu as fait ça, tu pensais à quoi? Tu pensais aux Tibesti? Tu pensais à Giscard? Tu pensais aux journaux? Tu pensais à New York? Tu pensais à quoi? Quand tu étais en face des filles, quand tu es rentré la première fois là dans le commissariat,
j'étais mort de peur. J'étais mort de peur parce que l'uniforme, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'après, effectivement, ça allait mieux, mais j'étais mort de peur et j'avais certainement plus peur que d'aller au Tibesti. Et puis.
Pourtant, là-bas, quand tu es parti la première fois, j'étais avec un commando parti de Libye, je ne sais pas quoi.
Non, mais c'est vrai, mais c'est très impressionnant. Les policiers, comme ça, ont l'impression qu'ils vont. Un commissariat, c'est très impressionnant parce que. On ne sait pas pourquoi. Parce que en fait la porte est ouverte, il y a un banc, il y a un comptoir, et il n'y a rien a priori qui devrait être impressionnant, mais c'est un peu comme un asile psychiatrique, quoi. C'est la ville, moi. Je sais pas, c'est peut-être l'origine rurale, c'est la peur. la porte est enfermée.
C'est le paysan de Paris devant la police.
Oui, je sais pas. Enfin, on dit ça à chaque fois, c'est un petit peu. Mais il me semble que. Et puis c'est aussi d'essayer de faire quelque chose, d'aller un peu plus loin dans le cinéma, un petit peu. D'aller un peu. Je me sens très concerné par ce film, parce que c'est un film aussi un peu sur la mort, sur les petits drames qui se passent pas du tout comme on le pense, comme on le voit dans les films de fiction. Parce qu'encore une fois, les films de fiction relatent très mal, et les romans policiers aussi, parce que ça se passe plutôt. Quelquefois, ça, on rit et on pleure, quoi. Mais je me parle très mal de mes films parce que je suis pas la personne la mieux placée pour parler de mes films.
Ouais, j'en parle très bien, c'est ok. Non, merde. Bon, mais on va aller. Tu sais, tu m'avais dit où est-ce qu'on va là?
On va aller voir une statue, tiens.
Parfait, on va voir les dames. Hein.
Voilà.
Bon. C'est à côté de l'endroit où tu tournais Giscard, là.
Ouais.
Ce plan dont j'étais jaloux pendant des mois et des mois, quand le soleil tombait. Tu sais, c'est bien un peu pour ça que je suis revenu ici. En disant, essayer de faire tomber le soleil, mais je sais pas si ça va marcher, là.
Ouais, ça, c'est les appartements de fonction du ministère du ministre des Finances. C'est un des plus bels endroits parce qu'il y a une terrasse.
C'est là où tu étais sur la terrasse, il y avait un type qui faisait des photos.
Voilà.
À Riva.
Voilà.
Et Giscard t'a dit, hein.
Mais c'est plus beau que l'Elysée, là, en fait. Bien sûr, on ne peut pas se rendre compte en passant en voiture parce que cette terrasse, on ne la voit pas, mais elle est très belle. Il y a des statues et en plus, on voit le coucher du soleil sur Paris. C'est très beau.
Bon, alors, attends, on découvre cette statue. Moi, j'en fais le tour. On passe de l'autre côté. Je t'aperçois avec la dame. Si tu la photographie, comment tu fais?
En douceur.
Vas-y.
Il faudrait filmer en douceur, toujours
vas-y,
en douceur.
Vas-y.
Moi, je crois qu'il faut toujours filmer les choses en douceur. Même les choses les plus dures.
Photographier, là, comment tu ferais? Une photo, vas-y.
Non, mais en photo, c'est vrai que
La flanc gênée, bon.
Il y a un jeu de jambes comme ça, un peu comme un boxeur sur un ring.
Oui.
Mais c'est vrai que je la photographierais pas. Si je devais la filmer, je pense que je la filmerais pas pareil que la photographie, parce que peut-être que je glisserais comme ça. Doux.
Voilà, écoute, je glisse là.
Doucement.
Il y a le visage.
Faut pas agresser les gens.
Même si on
s'agresse toi-même, hein, parce que.
Est-ce que la police pour toi était agressive?
Au départ, elle était très agressive, mais j'ai essayé, justement au contraire, de ne pas être agressif, d'essayer d'être plus. Pas objectif ni neutre, ça ne veut rien dire, mais de filmer avec. Je sais pas, avec retenue, pudeur, de pas forcer, de pas faire un mouvement qui soit contraire un peu à, je sais pas, à ce que je fais, ce que je bouge dans la vie, c'est-à-dire à rester comme je porte un regard, comme ça.
Bon, alors voilà, si tu la filmes, Philippe, passe ta caméra. Bon, ok.
Alors, si je la filmais,
alors, vas-y.
Je commencerai par les pieds.
Oui.
Je vous montrerai tout doucement. Voilà. Je tournerai autour.
Oui.
Puis je m'arrêterai.
Sur le visage.
Voilà. Peut-être après je descendrai sur les bras. Sur les bras. Voilà.
Est-ce que tu pratiquerais le contre-jour?
Le contre-jour? Ben, il y a une chose que j'ai jamais fait pendant le tournage de Faits divers. C'est vraiment de tourner comme ça, on pourrait dire presque, je dirais gratuitement. Ça.
Oui, mais là, c'est pas gratuitement pour moi.
Non, mais moi.
Oui.
Voilà, de tourner comme ça. Au contraire, j'ai pris une place comme ça. Et je me suis fait le plus petit possible. Et j'ai pas essayé de me faire oublier parce que je crois que ça n'existe pas. Enfin, effectivement, ma caméra, on la voit, je tiens pas à disparaître. Mais il y a des moments, je crois pas que ça soit nécessaire de donner l'impression que la caméra est trop participante. Quelquefois, il faut répondre, effectivement. Je devais répondre à des gens qui pouvaient peut-être me poser la question, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que c'est? Ou des gardiens de la paix qui me parlaient. Je réponds, mais je crois pas que systématiquement, il faut marquer la présence de la caméra. Elle doit être quelquefois un peu participante, bien sûr, mais moi, je crois plutôt quand même qu'elle doit rester un peu observante, avec toute la relativité que ça peut avoir d'une caméra objective. Je sais bien que ça n'existe pas. Donc c'est ce que j'ai vu, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je ferai, là. Voilà.
Moi, tu vois, ce que je ferai, là, j'essaierai, mais je rate toujours ces plans-là, c'est de faire la caméra à la main, voilà. Mais ça, en général, ça marche pas. Mais quelquefois, quand ça marche, ça peut être sublime. Là, tu vois, j'essaierai d'attraper le visage. Une petite révision du diable. Apparition de Raymond derrière, avec un soleil éblouissant. Et je m'éloignerai, tu vois, et je te laisserai face à face avec ta petite amie. Raymond de Pardon, fait divers, prise 1, prise unique. À la caméra, Philippe Constantini, Raymond de Pardon, Jean Rouche. Au son, Patrick Genet. Décor, Mayol et le nôtre, Paris, le 19 avril 1983, 19h. Pellicule Kodachrome, mixage, Musée de l'Homme.
Oui, là le générique, c'est une référence directe à Guitry. Et puis, pourquoi j'ai choisi ce film? C'est qu'on voit la rencontre entre un photographe et cinéaste, de Pardon, qui rencontre un cinéaste et ethnographe, Jean Rouche. Et là, on voit deux approches qui sont totalement distinctes. C'est-à-dire qu'il y en a un qui privilégie l'observation, qui filme les choses, et il le dit avec pudeur, avec retenue. Et face à lui, vous avez Jean Rouche qui a une caméra qui, dans une grande partie de ses films, a une caméra intrusive, participative, qui rentre directement, qui tourne autour de du monument à Sésame de Mayol. Et quand Depardon prend la caméra, il le mentionne, il dit « Moi, j'ai jamais tourné comme ça gratuitement. » Donc moi, cet extrait est stimulant à cet égard. C'est-à-dire que l'un privilégie l'immobilité, l'autre le mouvement, l'un les temps faibles et l'autre les temps forts. Et Rouche et la participation se revendiquent de Flaherty et de Vertov. Et de Pardon, avec de Pardon, on est vraiment du côté de l'observation. Il y a un point qui est essentiel dans ce film, donc il y a deux caméras, il y a Philippe Constantini qui filme, il y a Rouche qui filme. À un moment, Philippe Constantini passe la caméra à Depardon. Mais les points forts, c'est la manière dont commence le film et comment Rouche a cette faculté de toujours mettre l'autre en confiance. Quand l'autre arrive, il le lance sur un sujet qu'il maîtrise. C'est quoi? C'est Faits divers. Depardon, Raymond Depardon vient de faire un film sur Faits divers. Pourquoi un film sur la police, Raymond? Et puis celui-ci revient sur son dernier long métrage, Faits divers. Je suis un peu comme tout le monde, avec la police, il y a un petit blocage. Et la force des films de Rouche, c'est toujours d'arriver à faire émerger une parole en mettant l'autre en confiance. Je pense notamment à Chronique d'un été. Par rapport au temps, là, je m'achemine vers la fin. J'ai choisi ces trois extraits bien différents pour présenter différentes manières de filmer l'humain. Donc à la fin, ils se filment entre eux, mais c'est intéressant de voir comment ils se filment entre eux. Et le point que je voulais vraiment développer par cette intervention était le suivant, c'est que la façon dont nous nous conduisons envers les autres est façonnée par la manière dont nous les regardons et dont nous les imaginons. Et cette conduite dépend fortement des représentations collectives en circulation au sein de la société. C'est pourquoi il me semble toujours d'actualité d'adopter l'attitude scientifique préconisée par Marcel Mauss, et c'est au rapport de la représentation avec la pratique que nous devons faire attention, et non pas seulement à l'étude de la pratique. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.